Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Suite aux coupes rases menées par l'Office national des forêts en forêt domaniale de Villequartier et qui sont faites, entre autres, selon l'argument que le hêtre qui y est l'essence dominante ne résistera pas aux impacts du réchauffement climatique et qu'il s'agit toujours, selon l'ONF, de le remplacer par une essence plus résiliente, à savoir le chêne sessile, nous prolongeons la question en abordant cette politique d'adaptation des forêts au réchauffement climatique suivie par les opérateurs forestiers. Pour cela, nous avons interviewé Hervé Le Boulaire, qui a été jusqu'à très récemment expert forêt pour la Fédération Nature Environnement, mais aussi ancien directeur de laboratoire de recherche et développement à l'Office national des forêts, ainsi que membre du comité de rédaction de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au réchauffement climatique, qui a été amendée à la loi Climat et qui fait de l'adaptation des forêts la politique cadre des opérateurs forestiers. Nous lui avons donc posé quelques questions sur l'impact du réchauffement climatique sur les forêts, ainsi que sur cette politique d'adaptation et des impacts qu'elle-même peut et pourrait avoir sur les écosystèmes et la biodiversité. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Hervé Le Boulaire, bonjour. Vous êtes ancien directeur du Conservatoire national de la biodiversité forestière. Vous êtes conseiller de l'Institut de France pour la gestion de la forêt de Chantilly. Par ailleurs, vous avez été militant associatif de la Fédération France Nature Environnement, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental et vice-président de PEFC France, un organisme de certification promouvant la gestion durable. Et vous avez été membre du comité de rédaction de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Une feuille de route qui a été intégrée à l'amendement de la députée Anne-Laure Cattelot, votée le mercredi 7 avril 2021, et qui a été intégrée à la loi Climat. Une feuille de route qui va déterminer dans les années à venir la politique forestière en France, et qui, justement, donne des orientations en matière de politique forestière face au réchauffement climatique. L'adaptation des forêts au changement climatique, c'est justement le thème et le sujet de notre entretien. Est-ce que vous pourriez nous donner la mesure du réchauffement climatique? Quelles sont les projections des scientifiques en la matière?
Voilà. Alors d'abord, je voudrais préciser que je suis ex de beaucoup de choses, mais parce que ça fait 50 ans que je suis forestier. Je suis d'abord quelqu'un du pays de Vannes. Je suis toujours militant à France Nature Environnement, mais je lâche mes responsabilités après avoir été longtemps militant en Bretagne, à Haut-et-Rivière de Bretagne, à Bretagne Vivante avec Jean-Claude Pierre, au Réseau Cohérence avec Jean-Yves Griot, qui doit être quelqu'un qui est du pays du Coglès ou du pays de Fougères. Et donc, voilà, c'est ce qui explique que j'ai fait toutes ces choses qui, finalement, je n'étais pas tant que ça. Alors, le changement climatique et la forêt, alors, j'ai travaillé longtemps, presque 15 ans, au département recherche et développement de l'ONF et dans un labo mixte INRA. Donc, puisqu'on parlera aussi de Villequartier, il faut être très transparent, hein. Je suis un ancien de l'ONF, retraité maintenant, et j'ai des collègues que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup partout. Mon travail était de prévoir quels pourraient être les impacts du changement climatique sur les forêts métropolitaines, donc forêts de France et des îles Corse et des îles françaises. Et avec les collègues, on est arrivé à la conclusion que à partir de 2050-2060, il y avait des chances que ça se passe très mal. Il y avait énormément d'incertitudes, mais beaucoup d'inquiétudes. Et on pensait à l'époque qu'on avait relativement le temps de s'y préparer. Et quand on parlait de ça aux décideurs, ils nous disaient « 2050, c'est loin, on a beaucoup d'autres problèmes à traiter tout de suite, on verra ça plus tard ». Alors, c'était pas dit comme ça, mais c'était comme ça. Le problème, c'est que depuis 2 ou 3 ans, oui, 4 ans, 5 ans. 2060, c'est maintenant. On a eu la mauvaise surprise de constater que les impacts négatifs du changement climatique sur les forêts se manifestaient beaucoup plus tôt que prévu et avec des conséquences aussi graves que celles qu'on avait imaginées. Donc ça, cette chose-là, dans un premier temps, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le temps d'attente. Et dans le même temps, et quelqu'un qui est un voisin de chez vous, Jean Jouzel, qui est du sud de l'Ille-et-Vilaine, a été de ceux qui nous ont expliqué qu'on ne pouvait pas attendre 3 degrés de réchauffement, globalement, hein, y compris pour les forêts, mais qu'à partir de 2 degrés, ça allait mal se passer. Donc le président Chirac qui disait que la maison brûle, et on regarde ailleurs, il disait ça en 2000, eh bien en fait, la maison brûle, et brûle très très fort et très très vite. Et j'ai une collègue forestière qui a parlé d'une immense tempête silencieuse, et c'est bien cette immense tempête silencieuse qui est en train de s'abattre en permanence sur les forêts françaises et européennes, et qui amène à devoir se poser énormément de questions, à s'interroger, à s'inquiéter, sachant qu'on est dans un monde où il y a énormément, énormément d'incertitudes. On pourrait par exemple prendre le cas qui nous occupe, puisque ou qui vous occupe, ou qui occupe les forestiers de Villequartier et les gens de Villequartier, c'est le devenir du hêtre. Le hêtre est-il en train de dépérir? Va-t-il dépérir? Alors il y a bien sûr des modèles scientifiques. J'en ai, avec des collègues, mis au point un, dont on dit que je suis l'inventeur, qui est d'ailleurs un modèle qui s'appelle IKS. IKS, c'est pas du gallo, c'est du breton. Ça indique indicateur végétation-climat, qui montre que à partir de 2030-2040, non pas que le hêtre va dépérir, mais que le hêtre va se retrouver dans des climats dans lesquels aujourd'hui il n'y a que très peu de hêtre. Donc la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque à Fougères, à Villequartier, on aura un climat qui est peut-être déjà celui de la forêt du Gavre, ou qui va être celui des forêts de la région de Poitiers, dans lequel aujourd'hui il y a très peu de hêtres. Certains vont répondre en disant, puisque dans ces climats futurs, il n'y a pas de hêtres, c'est donc que le hêtre ne peut pas y vivre, et que s'il n'est pas mort, il va mourir. Pour être clair, moi j'en suis pas sûr. Je dirais que c'est une inquiétude qu'il faut regarder de très près comment se comporte le hêtre. Mais prenons le cas du hêtre de Villequartier. Si on ne fait rien et que le hêtre tient dans 30 ans ou dans 40 ans, on dira on a bien fait de ne rien faire parce que vous voyez, le hêtre est toujours là. Et s'il ne tient pas, et s'il meurt, on dira, on avait des inquiétudes vers 2020 et on n'a rien fait. Mettez-vous à la place des forestiers locaux. Est-ce qu'ils ne font rien? Ils auraient intérêt, tout à fait intérêt à ne rien faire. C'est beaucoup plus simple de continuer à faire les régénérations naturelles comme elles se faisaient avant. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un moment, le hêtre lâche? Ou alors, est-ce qu'on plante en se disant, on perturbe le milieu, on introduit une espèce nouvelle, d'ailleurs le chêne sessile, et est-ce que dans 50 ans, 80 ans, le chêne sessile ne va pas aussi dépérir? Et de toute façon, ça va coûter de l'argent, de toute façon, ça pose des problèmes sur les écosystèmes, et puis, ça génère des réactions par rapport aux gens qui légitimement considèrent que la forêt de Villequartier, même si c'est pas à eux, la forêt de Villequartier, c'est chez eux. Donc ça pose un problème qui s'était jamais produit avant, c'est celui de prendre des décisions en contexte d'incertitude. D'ici 2050, qu'est-ce qu'on va avoir ? Entre 2 et 2,5 degrés de réchauffement. Alors on va parler quand même plutôt sur l'île Évidène pour faire ça. 2 degrés et demi de réchauffement. Des hivers plus doux, donc des saisons de végétation plus longues. Et assez probablement des étés un peu plus secs. Mais à la limite qu'il pleuve moins, ça ne change pas grand-chose. Ce qui importe, c'est que plus il fait chaud, plus les arbres ont soif. Et même s'ils ont la même quantité de pluie, ils vont se retrouver en situation de stress hydrique. Alors ensuite, il y a des phénomènes qu'on connaît mal. Si on prend le hêtre, par exemple. Comment se comporte le hêtre quand la température extérieure atteint 43 degrés, ce qu'on a connu? Est-ce que, du fait qu'il a une écorce qui est très faible en épaisseur, est-ce qu'il ne va pas être atteint de brûlure? Interroger les forestiers. Des écorces de hêtre en plein soleil, c'est pas très bon.
Est-ce que vous pourriez nous détailler les différents impacts que vous recensez sur les forêts ?
Encore une fois, les conséquences sont variables selon l'endroit où on se trouve, selon les espèces en présence, selon les sols. Mais on peut dire en gros qu'il y a deux grandes conséquences. Pour l'instant, la soif pour les arbres, parce que plus il fait chaud, plus ils ont besoin d'eau. Prenez un exemple simple, on vous donne un litre de flotte, on vous fait partir en randonnée, dans les Vosges. Imaginez le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir faire avec votre litre d'eau. On vous donne la même quantité d'eau et on vous lâche au milieu du désert. Je suis prêt à parier que vous allez aller beaucoup plus loin et que vous mourrez beaucoup plus vite. Pourtant, vous avez la même quantité d'eau. Donc, ce qui est important, c'est la soif. Et la soif dépend de la température. Plus il fait chaud, plus on a soif. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les arbres. Donc ça, c'est un gros problème, parce que chaque espèce a une capacité à tolérer la sécheresse qui lui est propre. Et les hêtres et les sapins ne tolère pas aussi bien la sécheresse qu'un chêne sessile ou qu'un chêne vert, tel qu'on en trouve aujourd'hui entre Saint-Nazaire et Vannes, ou un pin maritime, comme on les trouve dans le sud de la Loire. Donc ça, c'est le premier problème. Il est relativement facile à modéliser. On sait à peu près à quoi s'en tenir. On sait comment on peut réagir par rapport à ça. Le deuxième problème est beaucoup plus complexe. On utilise un terme peut-être un peu compliqué qu'on appelle les bio-agresseurs. Agresseurs, on sait ce que ça veut dire, bio, c'est vivant. Donc les bio-agresseurs, ce sont les insectes, les champignons, les pathogènes divers, bactéries de toutes sortes, qui sont présentes quelque part dans la nature et qui soit se mettent à changer de comportement et deviennent beaucoup plus agressifs, soit arrivent et débarquent dans des endroits où ils n'étaient pas présents auparavant. Alors on a parmi les insectes qui sont présents et qui changent leur comportement, je pense que tout le monde a vu à la télé et ou entendu parler de ces images d'un petit insecte qui s'appelle le scolyte, qui est tout petit, c'est un tout petit, de gros comme la moitié d'un hanneton, et qui s'attaque à l'épicéa commun, le sapin de Noël. Il a toujours vécu dans ces forêts. Il sortait de son trou quand il y avait un arbre qui était en train de mourir ou déjà mort, et il faisait du recyclage. Là, avec le réchauffement climatique, au lieu de faire une ou deux générations par an, il fait trois générations. Et à chaque fois, c'est des centaines de descendants par femelle. Mmh. Et ensuite, au lieu d'avoir 90% de mortalité pendant l'hiver du fait du froid, il n'y a plus que 30 à 40% de mortalité. Ça veut dire que les populations de ce scolyte explosent. Et quand ils sont très nombreux, il s'attaque à des arbres sains, ce qui fait qu'on a actuellement ces épicéas communs qui sont en train de mourir des attaques de scolytes, le scolyte étant favorisé par le changement climatique. Mmh. C'est un peu comme si c'était une immense armée de zombies qui leur tombait dessus. Et le deuxième problème, ce sont les parasites introduits, des champignons ou des insectes qui vivaient dans d'autres parties du monde, qui n'avaient jamais rencontré les espèces autochtones, et lorsqu'ils arrivent, ces champignons ou ces insectes tombent sur des arbres qui ne savent pas se défendre, qui n'ont pas évolué avec eux, et qui se font détruire. Alors on a connu dans le passé, il y a 30 ans, les ormes. Les grands ormes ont disparu de l'Ouest. Il ne reste plus que des petits ormeaux. Dès que l'arbre devient un peu gros, le champignon se remet dessus. On a actuellement une terrible maladie sur les châtaigniers. On a des inquiétudes sur une terrible maladie aussi qui arrive sur les frênes. En fait, toutes les espèces sont susceptibles d'avoir un bio-agresseur, un parasite majeur qui peut faire énormément de dégâts. On ne peut pas modéliser ces choses-là. Il y en a aussi sur les chênes, il y en a sur le hêtre, et on doit réagir par rapport à cette incertitude. La première conclusion, c'est qu'aucune espèce n'est sûre dans le futur. Toute espèce qu'on mettra en forêt risque, à un moment ou à un autre, d'avoir un parasite. Donc la réponse, c'est de faire des mélanges.
Je voulais revenir sur cette notion d'adaptation. Vous avez donc participé à la rédaction de cette feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de cette politique d'adaptation ? En quoi consiste-t-elle ?
Alors, la feuille de route, c'est une chose qui est vraiment intéressante. Il s'est passé deux choses très intéressantes il y a deux ans. Au milieu de ces soucis de Covid, de crise qui n'en finit pas, il y a eu le vote unanime de tous les députés disant la forêt c'est important, la forêt, il faut regarder ce qu'il y a dans la feuille de route, il faut écouter les scientifiques, et ça c'est l'amendement d'Anne-Laure Cattelot la semaine dernière à l'Assemblée nationale, et c'est pas tous les jours qu'on voit tous les députés, tous les groupes, voter à l'unanimité un texte, alors que curieusement, d'ailleurs, on a du mal à comprendre, enfin moi j'ai du mal à comprendre pourquoi le gouvernement ne voulait pas que cet amendement soit adopté. Il était opposé. Mais bon, ça, je sais pas, c'est pas à moi de dire. J'étais pas là. Mais ça, c'est important, cette unité nationale qui s'est faite avec les députés, d'ailleurs. Les députés de Bretagne, hein, tous les députés qui siégeaient là ont voté ce texte. Et la feuille de route, c'était aussi une initiative venant cette fois-ci des sénateurs. Le président Larcher avait été voir les forestiers dans les forêts de l'Est. Il est revenu en disant c'est pas possible, on peut pas laisser les forestiers et les forêts dans cet état-là. Il a provoqué une assemblée commune de tous les acteurs forestiers et des ONG, puisque FNE y était, au mois de novembre, il y a deux ans, et le ministre de l'Agriculture de l'époque a dit « c'est pas à moi, État, de dire ce qu'il faut faire, rassemblez-vous et remettez-moi un rapport ». Le rassemblement s'est fait, l'amont de la filière forestière, les propriétaires publics et privés, les coopératives, les industriels du bois, les scientifiques, les ONG, les élus. Et il y a cette feuille de route qui est une feuille de route consensuelle, qui évidemment n'a pas été simple à mettre au point parce que chacun a ses propres intérêts, et c'est tout à fait normal que chacun ait ses propres intérêts, mais au bout du compte, on a cette feuille de route, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, elle dit « on doit agir, la situation est grave, il faut intervenir en tant qu'être humain pour aider les forêts à s'adapter et on ne peut pas attendre ». Il y a quelques idées, des grandes idées, c'est d'augmenter la résilience, protéger les écosystèmes, protéger les sols, intervenir quand on doit changer les espèces et les provenances, ne pas faire n'importe quoi, observer, regarder, faire beaucoup de science. Et pour le point qui était ma mission, les relations forêt-société, on ne peut plus le faire sans associer toute la société à la réflexion.
Est-ce que vous pourriez nous parler de ce terme d'adaptation dans la feuille de route ? Il revient de manière très récurrente. Et cette notion d'adaptation, en quoi consiste-t-elle concrètement ? Est-ce que ça signifie un renouvellement des essences dans les forêts, compte tenu justement du réchauffement climatique, du fait que le climat se déplace, on pourrait dire ça comme ça ? Cette notion d'adaptation, est-ce qu'elle correspond à cette idée de renouveler et de changer de fond en comble les forêts ?
Alors, pour moi, ce n'est qu'un des aspects. Évidemment, c'est un aspect qui est extrêmement simple à comprendre. On change les draps, on change les meubles, on change les peintures. Je trouve aussi que cette approche qui est pour moi trop simpliste est aussi facile parce que ça permet de se positionner pour ou contre. Il y a un mot en breton, je ne sais pas si ça existe en gallo, ça s'appelle « faire avec ». Et « faire avec », ça veut dire qu'on peut raconter tout ce qu'on veut quand on est face à une situation, il va bien falloir faire avec, content ou pas content. Donc, s'adapter, c'est d'abord faire son deuil, et c'est compliqué à faire d'un certain nombre de choses, se convaincre qu'il y a des choses qui vont changer, que ce qu'on a connu ne sera plus là, sans qu'on sache ce qui va disparaître, ce qui va changer ou pas. Avant de passer au changement d'essence, il y a aussi analysé tout ce que l'on faisait et que l'on doit cesser de faire de façon à ce que les arbres soient soutenus, permettent de mieux vivre et donc de résister aux chocs qui vont arriver. Et là, ça concerne essentiellement le sol. C'est un point qu'on a découvert, c'est que avec les machines, y compris d'ailleurs avec les chevaux, mais bon, à pas continuer à rentrer dans les forêts avec des chevaux, ou alors faut tirer les conséquences en matière de civilisation de ce que ça représente. Mais il faut absolument éviter de tasser les sols, et donc ça amène à une chose qui n'existait pas dans les forêts, ce sont des cloisonnements. C'est-à-dire que on va dire qu'il y a des endroits où on va passer avec des machines et des endroits où surtout on ne passera pas avec les machines. Après, puisqu'on coupe du bois, comment on va chercher ce bois ? Est-ce qu'on va le chercher avec des machines ? Est-ce qu'on va le chercher avec des câbles ? Enfin, il y a tout un tas de réflexions là-dessus. Ensuite, on peut s'adapter justement en considérant que s'il n'y a pas d'eau pour tout le monde, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses en diminuant le nombre d'arbres à l'hectare ? Sachant que très vite, si on diminue le nombre d'arbres à l'hectare, on va avoir des problèmes de lumière au sol qui vont réchauffer les sols, qui ne vont pas les arranger, qui vont laisser les plantes de type graminée se développer. Donc c'est un équilibre qui est très compliqué. Et encore une fois, c'est une situation qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. Donc il faut vraiment expérimenter, regarder ce qui se passe et être capable de changer de comportement si on se rend compte qu'on fait des erreurs. Ensuite, il y a le rôle que peut jouer la régénération naturelle. Si aujourd'hui des arbres sont en train de dépérir, c'est peut-être parce qu'ils sont nés il y a un siècle ou un siècle et demi, à une époque où ils ont été sélectionnés sur d'autres critères que la résistance à la chaleur et à la sécheresse. Et peut-être que dans leurs enfants, dans leurs descendants, il y aura des arbres, des petits semis, qui, eux, auront des capacités à s'adapter au nouveau contexte. Ce n'est pas impossible au niveau génétique. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire tourner la machine à la reproduction et provoquer des régénérations naturelles. Je pense que le être, ce n'est pas sûr, mais on peut espérer qu'il y aura des êtres tolérants aux nouvelles conditions dans les petits êtres qui vont naître, alors que leurs parents ne l'étaient pas. Ensuite, avant d'aller chercher de nouvelles espèces, on peut aller chercher des êtres du Sud. Il y a par exemple à Chizé une hêtraie qui va mal, hein, parce qu'elle aussi est soumise aux effets du changement climatique, mais avec 2 à 3 degrés de plus. Mais est-ce que les hêtres de Chizé, si on les introduit à Fougères ou à Villequartier, ne vont pas trouver des conditions locales qui leur permettront de résister et de vivre pendant un siècle? Et ces êtres devenus grands vont pouvoir se croiser avec les êtres locaux. Tout ça, ce sont des paris. C'est d'une stratégie, moi, que j'ai appelée, alors évidemment, je vais pouvoir la sortir en Ille-et-Vilaine, parce que quand j'en parle à Marseille, les gens ne comprennent pas. Je veux parler de la stratégie de la galette merguez. Tout le monde connaît en Ille-et-Vilaine la galette saucisse. Bon. La galette merguez, c'est garder la galette, mais mettre une merguez à la place de la saucisse. C'est une forme d'adaptation. On ne change pas complètement le système local. Et puis, à la fin, il y a le changement d'espèce qui consisterait, par exemple, à faire venir du chêne Cécile à Villequartier. Mais il faut se poser aussi la question, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher déjà des chênes verts qui poussent aujourd'hui du côté de Sarzeau, du côté de Vannes, du côté de Saint-Nazaire. Bon, sachant que derrière ça, il y a ce qu'on appelle de la migration assistée. Si le changement climatique se produisait en 1000 ans, au lieu de se produire en un siècle, il se reproduirait des choses qu'on a déjà vues il y a 10 000 ans. On verrait peu à peu arriver du sud, à raison de 10 à 20 mètres en moyenne par an, des espèces qui suivraient le climat. Là, ça va tellement vite qu'on peut se dire qu'il va falloir répondre à la vitesse du changement climatique. Et c'est là qu'on arrive à l'introduction d'espèces. Moi, mon point de vue, hein, c'est qu'il faut d'abord faire le tour complet de tout ce qu'on peut installer à partir des espèces qui existent déjà à 300 ou 400 km au sud, avant d'aller chercher des espèces exotiques. Parce qu'ils vont retrouver ces espèces, toute une biodiversité qu'ils connaissent déjà.
Justement, la question, c'est justement cette urgence dont vous parlez à l'instant, l'urgence du changement climatique. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, de multiplier des plans de renouvellement qui supposent et qui induisent le fait de couper des grandes parcelles en forêt et qui auraient pour conséquence, justement, de perturber et de remettre en question toute la biodiversité existante?
Si, en particulier, il y a le risque de provoquer des changements microclimatiques locaux qui amèneraient à des températures, comme ça a été mesuré dans les derniers étés. On a mesuré des températures à 10 cm au-dessus du sol, à l'ombre, hein, pas en plein soleil. On a mesuré des températures de 46-47 degrés. Il est évident qu'à ce niveau-là, tout cuit, tout est mort. Donc, on doit imaginer des modes de renouvellement des forêts qui évitent ces phénomènes de grands espaces où les températures deviennent très très chaudes. Mais si on laisse beaucoup d'arbres en place, ces arbres vont consommer l'eau et les petits arbres que vous installez à leur place n'arriveront pas à se développer. Moi, je travaille, là, vous l'avez dit, je suis conseiller de la forêt de Chantilly. Forêt de Chantilly, 6500 hectares, plus chaude et plus sèche que Villequartier, et sur des sables avec du calcaire au fond. Donc, c'est vraiment pas facile. La forêt, la moitié des arbres sont en train de mourir. On est dessus à y travailler une trentaine de laboratoires de recherche. des forestiers de partout. Et on ne sait pas que faire. Et on a concentré tous les moyens pour essayer de comprendre ce qui se passait à Chantilly et qui faire, avec en même temps les arbres qui sont en train de dépérir, et pour le propriétaire, la nécessité de ne pas perdre la valeur de ces arbres. Donc moi je comprends, je me mets à la place des collègues forestiers qui sont sur le terrain, qui sont peu nombreux, beaucoup trop nombreux parce que l'État a supprimé des postes, et qui doivent continuer à faire leur travail et essayer de prendre des décisions. C'est quelque chose, j'ose dire, d'épouvantable. Ne rien faire, c'est pas possible. Agir, c'est prendre le risque de faire des erreurs, c'est même en avoir la certitude. Et comment dire à des gens qui vous demandent « Pourquoi vous faites ça ?» et de répondre « Je fais ça parce que je pense que je ne peux pas ne pas le faire, je ne peux pas ne rester sans rien faire. Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher ?» Non. Alors pourquoi vous le faites? Parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Parce que si je fais rien, je suis sûr que, beaucoup plus sûr qu'il y aura des choses graves qui se produiront. Donc, les grandes coupes, certainement il faut les diminuer, mais il faut savoir pourquoi on les diminue. Est-ce qu'on les diminue parce que ça donne un paysage qui n'est pas agréable à voir? Ou est-ce qu'on les diminue parce que biologiquement, ce n'est pas la bonne façon de le faire? Si je reprends la comparaison avec la médecine ou avec la chirurgie, il y a des opérations qu'on est obligé de faire pour sauver les gens. Ce n'est pas beau à voir. C'est même dégoûtant à voir. Parfois, il y a des résultats qui sont très difficile à accepter. Quand on ampute quelqu'un d'une partie de lui-même parce que c'est la seule façon de l'empêcher de mourir, ben, au bout du compte, le résultat, il n'est pas agréable à regarder, ni pour la personne, ni pour les gens qui sont autour. Et il y a un moment, on se dit, il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne pouvait pas l'éviter. Je pense qu'en matière de forêt, il y a un certain nombre de choses qui sont de ce niveau-là. Et pour, si vous parlez, s'il faut utiliser le mot des coupes rases, je parle des coupes rases d'adaptation. Je ne parle pas des coupes rases qui sont le choix d'une méthode de sylviculture. Celle-là, je ne pense pas qu'il faille les maintenir. Mais les coupes rases d'adaptation, ça ne peut. On ne peut pas échapper à discuter avec les gens qui vont voir la coupe en disant voilà la situation, voilà ce qu'on va être amené à faire. Est-ce qu'on a des solutions pour l'éviter? Est-ce qu'au bout du compte, il ne faut pas se résoudre à dire n'y a pas d'autre solution que de faire ça?
Mais la crainte qui peut s'exprimer, notamment, c'est justement c'est d'employer dans l'urgence, à cause du réchauffement climatique, des moyens qui, justement, favorisent ce réchauffement climatique, à savoir une intensification de l'exploitation forestière, de l'augmentation donc, des coupes, des plantations en linéaire, la mécanisation et des monocultures qui sont justement, pour une grande part, on le sait, des causes du réchauffement climatique. Et est-ce que dans l'urgence et en utilisant ces moyens-là, on ne risque pas justement d'accentuer le problème?
Alors déjà, la peur n'empêche pas le danger. Et ce n'est pas à moi de dire si ceux qui ont peur de ça ont raison d'en avoir peur. Il faut qu'ils s'adressent à ceux qui sont les acteurs de terrain en leur disant, en leur demandant, est-ce que vous allez faire ça? Et là, les gens qui ont peur verront si la crainte est justifiée. Donc je pense que la préconisation, c'est d'avoir en place des comités massifs, des comités d'acteurs, où les riverains auront leur mot à dire, et encore une fois, dans les forêts publiques, parce que dans les forêts privées, les enjeux sont totalement différents. Il y a le fait d'être propriétaire privé entraîne des responsabilités qui ne sont pas les mêmes et un contexte qui n'est pas le même que celui de la forêt publique. Mais dans la forêt publique, Je vais prendre l'exemple de ce que l'on fait à Chantilly et de ce qui est fait aussi dans la forêt domaniale de Compiègne, qui est à 50 km, qui est une forêt d'État, alors que Chantilly, c'est la forêt privée de l'Institut de France. Il y a un comité exécutif qui est constitué de élus, parc naturel régional, scientifiques, ONF, propriétaires, et il y a un collectif de bénévoles qui participent aux mesures, aux observations et aux travaux. Et tous ces gens-là sont en train de mettre en place des méthodes pour échanger, discuter, dialoguer, de façon à ce que les diagnostics soient partagés, que toutes les actions soient transparentes et qu'il y ait à la fin, bien sûr, quelqu'un qui décide, qui est le propriétaire. Parce que le propriétaire est le responsable. On va pas, je ne pense pas qu'on va y aller jusqu'à mettre en place des référendums collectifs pour savoir si on coupe un arbre ou si on ne le coupe pas. Je pense que ça dépend de l'État et de l'ONF. Par contre, tout ce qui est avant doit être discuté.
On voit les débats sur la question agricole, sur les manières de faire de l'agriculture et la recherche d'autres modèles de production agricole qui seraient beaucoup plus, comment dire, qui épouseraient beaucoup plus l'impératif de respecter la biodiversité, de pouvoir même la favoriser. Est-ce que dans la sylviculture, il y a aussi ces mêmes recherches et qui permettraient justement de sortir de, ou du moins d'éviter qui seraient des garde-fous pour éviter une sylviculture intensive.
Alors la question n'est pas d'en sortir puisqu'on n'est pas rentré. Il y a 2 millions d'hectares, 1 million et demi, qui utilisent des méthodes de sylviculture intensive. 1 million et demi d'hectares sur 17 millions au total, c'est-à-dire moins de 15%. En forêt, on est aujourd'hui dans la situation de l'agriculture en 1960. Donc moi, je ne partage pas l'idée d'une généralisation qui dénoncerait l'ensemble, d'ailleurs je ne pense pas que personne le dise, de la sylviculture française comme étant quelque chose qui relève d'une sylviculture intensive industrielle. Ce n'est pas vrai. C'est aussi faux que de penser que la forêt française diminue. Donc, on n'a pas à discuter, pour l'essentiel des forêts françaises, de sortir d'un modèle qui n'est pas celui qui est appliqué. En particulier, ce n'est pas le modèle qui est appliqué
Ou du
à
moins
l'ONF.
de ne pas y entrer.
La question, c'est de ne pas y entrer. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent y rentrer? Oui. Ils ont tort. Pour moi, ils ont tort. Il faut discuter avec eux. Il faut les convaincre ou au besoin les empêcher de rentrer dans ce modèle-là. Mais il faut commencer par discuter. Il ne faut pas confondre les lieux de débat. Ce n'est pas un débat à mener avec l'Office national des forêts. C'est un débat à mener avec des acteurs comme peuvent être les grands opérateurs forestiers, je pense à la caisse forestière de la Société des dépôts qui a décidé qu'ils allaient alors arrêter ou mettre la pédale douce sur les coupes rases. C'est des sujets qui sont à discuter avec les coopératives forestières, et en particulier les très grandes coopératives forestières. C'est là que ce doit être le débat. Mais il ne faut pas se tromper de lieu de débat. Le débat avec l'ONF est un débat sur la compatibilité d'actes techniques qui amènent à des modifications de paysage, comme par exemple couper du hêtre pour le remplacer par du chêne avec une période de 20 ans pendant laquelle le paysage est profondément changé. Donc effectivement, on serait dans d'autres régions, le débat serait beaucoup plus vif. Ça peut être le cas du massif landais, ça peut être le cas du Morvan. Mais en tout cas, moi, s'il y a des choses extrêmement incertaines, il y a au moins une chose qui est certaine, ce n'est pas le débat sur l'avenir de la forêt de Villequartier. Aujourd'hui, le débat sur la forêt de Villequartier, c'est un débat sur l'adaptation, sur les méthodes d'adaptation. Et ce n'est pas un débat sur les objectifs de gestion durable de cette forêt que je connais depuis, comme toutes les forêts de Bretagne, hein, que je connais depuis des décennies.
Le sujet est important, d'autant plus dans une situation où l'on parle de transition avec ses objectifs de neutralité carbone. Il va y avoir une incitation, et il y a déjà une incitation à changer des normes dans la construction des bâtiments et qui vont amener à, qui respecteront et qui doivent respecter des neutralités carbone avec l'idée d'aller vers de la construction de bois. Il y a l'encouragement aussi à utiliser des énergies renouvelables. Mais malgré tout, les forêts ont un rôle quand même d'assainissement de l'air. Lorsque l'on entend et que l'on écoute des naturalistes qui parlent de leur fonction d'assainissement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les forêts soient aussi des alliés d'une certaine manière pour lutter contre le réchauffement climatique?
Alors, bon, moi peut-être que j'exagère. Je dirais qu'il ne faut pas trop compter sur les forêts à propos du carbone. Ce n'est pas ça qui réglera le problème. Les forêts sont en péril et on ne va pas demander à quelqu'un qui est en réanimation à l'hôpital de produire plus pour assurer, production des bagnoles ou qu'il y ait du pain dans les magasins demain matin. La première chose qu'il nous faut, c'est de maintenir les forêts, faire en sorte que dans 50 ans, on ait toujours des forêts et qu'elles aient toutes les fonctions. Biodiversité, paysage, protection de la qualité de l'eau, protection contre les risques, lieu pour aller se ressourcer, production de bois et fixation de carbone. Mais dire que les forêts vont être la solution pour gérer les problèmes d'excédent de carbone, je dirais, commençons par réduire les émissions de carbone. Mais moi, une entreprise qui dit « je plante pour compenser mes émissions de carbone » et qui n'a pas commencé par réduire ses émissions de carbone, je pense qu'elle n'est pas crédible. Aujourd'hui, on ne sait pas si les forêts vont continuer à fixer ou pas du carbone dans les années à venir. Elles peuvent très bien se mettre à en relâcher parce que les arbres sont malades, les sols vont se réchauffer. Il y a une seule chose qui est vraie, qui est indiscutable, c'est que le carbone qui est dans du bois, le bois qui est dans une maison, là, c'est du carbone qui est fixé et que si on sait faire les choses intelligemment, elle peut être fixée pendant des décennies. Et tant qu'elle sera dans le bois de lit, dans le bois de la charpente, dans les menuiseries, dans la table, je regarde autour.
Allô, allô ?
Oui.
Oui, ouais, il y a eu des coupures là.
Avoir cette idée mécanique qu'on va planter un arbre et qu'une espèce d'esclave dont l'objectif unique sera de fixer du carbone, ça ne peut pas fonctionner. Si l'arbre fixe du carbone, oui, mais transformer les forêts en machines à fixer le carbone, ça n'a pas de sens. Probablement, ça ne marchera pas.
Alors, je m'aventure peut-être dans...
Mais c'est mon point de vue. Hein. Ouais. C'est l'évolution d'une réflexion. Moi, je ne prétends pas avoir raison. Hein.
Comment les plans forestiers sont intégrés aux schémas régionaux de cohérence écologique?
Très, très mal.
Les trames vertes et les trames bleues, comment s'articule, en fait, on sait que les forêts sont des réservoirs de biodiversité au sein de ces schémas et de ces schémas de cohérence.
Ça s'articule mal. Et pourquoi ça s'articule mal? Est-ce que c'est regrettable? Oui, parce qu'en matière de biodiversité, les forêts sont souvent les piliers, les cœurs, avec les zones humides. Ça s'articule mal parce que, de tout temps, il y a eu une séparation entre le monde forestier et des forestiers et le monde du reste de la nature. Ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde, c'est vrai en France. Il y a des raisons historiques. On dit qu'au muséum d'histoire naturelle, les premiers qui se sont lancés dans ces politiques de conservation de la nature étaient des gens des milieux ouverts, des botanistes et des gens des oiseaux, et pas des forestiers, alors que l'écologie a commencé avec les forestiers, il y a un siècle et demi en France. Et puis ensuite, ça s'est séparé. Le monde forestier se méfiait du monde extérieur, a eu tendance à se replier sur lui, La gestion des forêts, pour l'essentiel, dépend du ministère de l'Agriculture, alors que la gestion de la nature dépend, pour tout le reste, quasi exclusivement du ministère de l'Environnement. Ce sont deux ministères qui, en dépit de tous les grands discours, hein, ont du mal à collaborer. Et donc, quand on regarde les PLU, les SCOT, les plans d'aménagement, on s'aperçoit que les questions forestières sont fort maltraitées par ceux qui écrivent les plans, par ceux qui en discutent. On demande à l'ONF, on demande au CRPF de mettre trois pages là-dessus. On fait du copier-coller dans le document et on oublie. Et d'un autre côté, les grands plans forestiers, les plans d'aménagement oublient de s'intégrer dans le reste des dispositifs. Donc c'est pour ça que je dis que jusqu'à présent, ça fonctionne mal, ça devrait fonctionner mieux. Il y a une voie que je trouve fertile, c'est les parcs naturels régionaux. Par les PNR, on peut intégrer les questions forestières dans les questions d'aménagement global de l'espace. Là, je travaille avec le PNR du Golfe du Morbihan, où il y a une réflexion bien obligée entre l'arbre, la forêt et la ville, dans cette zone à forte densité de population et forte pression touristique, avec des forts enjeux naturels, il faut bien intégrer le tout. Mais globalement, ça va plutôt mal. Si vous en parlez aux élus, les questions forestières, la plupart du temps, sont traitées en questions diverses.